Shalom tout le monde, on m'a dit que le Rav Parkout a demandé que je vous dise quelques mots sur Hanouka. Hanouka est une très grande fête, voilà, c'est ça. Voilà, Rabbi Hanania. Bon, ben, puisque on m'a demandé de vous parler de Hanouka, ben, nous allons parler de Hanouka. Nous allons commencer par une question toute banale, qui est la raison de la fête de Hanouka. Pourquoi faisons une fête à Hanouka? Oui. La victoire du peuple juif sur les Yévanim. Hein? L'indépendance du peuple d'Israël. L'établissement de la Malchut Israël. Donc, vous avez déjà eu des cours sur la question, n'est-ce pas? Hein? C'est tout frais de ce matin. Qui c'est qui vous a donné cours? Vartouche. Donc il nous a expliqué sur la base du Rambam, je suppose.
Ouais, ouais.
Très bien. Donc le Rambam nous explique qu'il y a effectivement l'essentiel de la fête de Hanouka, c'est l'indépendance politique. Je tiens à vous rappeler que le Rambam ne mentionne pas ça seulement, il mentionne également le miracle de la fiole. D'accord? Et il y a en conséquence de cela deux halakhot qui sont... Quels sont les deux commandements de la fête de Hanouka? Le Hallel et la lumière. Et les lumières. Quelle est la mitzvah la plus importante? Décidez-vous. Le Hallel ou les lumières? Décidez-vous. C'est dit donc que c'est le Hallel qui est le plus important. Historiquement parlant, les lumières sont beaucoup plus tardives. Dans les textes qui parlent de la fondation de la fête de Hanouka, aussi bien dans la Gemara que dans le livre des Maccabées, que dans les Braïtot qui traitent de ces questions, nulle part il n'est dit que les Hashmonaïm ont institué l'allumage des lumières. Mais la chose qui est dite en premier, c'est qu'il a été institué de faire le Hallel, donc c'est la mitzvah originelle, et les lumières sont beaucoup plus tardives, on découvre ça déjà chez les anciens de Beth Hillel et de Beth Shammai, donc il y avait déjà un usage qui était d'allumer les lumières. Mais la mitzvah originelle, c'est le Hallel. D'accord? Maintenant, le Hallel vient en commémoration de... Pourquoi? Pour Odin et les lumières en souvenir de la fiole. D'accord? C'est-à-dire, donc, il y a ici deux commandements, un important, l'autre moins important, mais beaucoup plus populaire. Parce qu'un Hallel, ça ne se voit pas de loin, tandis que des lumières, ça se voit. D'accord? Bon. Jusque-là, c'est bien clair? Bon. Je suis très heureux d'avoir compris ça. C'est la raison pour laquelle, quand la Gemara demande sur la bénédiction des lumières, on dit « Asher kitchanu b'mitzvotav vetzivanu ladlik ner Hanouka ». La Gemara demande « Mais echan sivanu, est-ce que Dieu nous a ordonné d'allumer les lumières de Hanouka ?» Et la Gemara ne pose pas la même question pour le Hallel. Pourquoi la Gemara ne demanderait pas pour la bénédiction du Hallel? Pourquoi est-ce qu'on dit « Vetzivanu » ? Il nous a ordonné. Parce qu'il semblerait, d'après la Gemara, que l'origine du Hallel est claire, tandis que l'origine des Lumières n'est pas claire. Quelle est l'origine du Hallel? Qui c'est qui a institué qu'il faut dire le Hallel quand on est libéré? Marqué dans le. Tu sais que marqué dans le n'est pas une phrase. Dans le Shulchan Aruch. C'est-à-dire que les Hashmonaïm ont lu le Shulchan Aruch, et qu'ils ont lu dans le Shulchan Aruch qu'ils devaient faire le Hallel. C'est la raison pour laquelle ils ont fait le Hallel. Ben, disons pourquoi je parle. Depuis déjà 10 minutes, j'explique que la première institution des Hashmonaïm, la fête de Hanouka, c'était le Hallel. N'est-ce pas? Et j'ai expliqué que le Hallel est en souvenir de l'indépendance, tandis que les lumières, c'est à cause de la fiole. D'accord? Donc, je pense qu'il était clair que les Hashmonaïm ont dit le Hallel. Bah, oui. Si j'ai dit que les Hashmonaïm ont institué le Hallel, c'est qu'ils l'ont dit, ils n'ont pas institué quelque chose qu'ils n'ont pas fait. Bon. Le problème, où est-ce que les Hashmonaïm ont été trouver ça, où est-ce qu'ils ont été chercher tout ça, qu'il fallait faire le Hallel quand il y a eu l'indépendance? À la sortie d'Égypte, nos ancêtres ont récité le Hallel lors de la sortie d'Égypte. Et pourquoi ils ont récité le Hallel? Parce qu'ils sont sortis d'Égypte, n'est-ce pas? Parce qu'ils sont libérés du joug des pharaons. C'est très bien. Et qui c'est qui a institué qu'il fallait dire le Hallel quand on est libéré? Moshe. C'est-à-dire que la Guémara nous dit que les prophètes, lors de la sortie d'Égypte, ont institué de dire le Hallel à chaque fois qu'on serait libéré. C'est-à-dire, ce qu'ont fait les Hashmonaïm, ils n'ont fait qu'appliquer une takana, une institution déjà décidée par les prophètes avant eux. D'accord ? Donc il n'y a pas de nouveau. Vetivanu, c'est-à-dire Dieu nous a ordonné par la voix, l'organe des prophètes lors de la sortie d'Égypte, de dire le Hallel à chaque fois qu'on est libéré. Donc en fait, les Hashmonaïm n'ont fait qu'appliquer une règle antérieure. Oui ? Cette akana a été fixée par les prophètes lors de la sortie d'Égypte. Or, les prophètes lors de la sortie d'Égypte étaient Moshe, Aaron et Myriam. C'est-à-dire que c'est Moshe, Aaron et Myriam qui ont institué le Hallel pour la sortie d'Égypte, pour Hanouka et pour Yom HaAtzmaut. C'est-à-dire, en fait, on ne fait qu'appliquer une règle qui a été fixée à l'avance, qu'à chaque fois qu'il y aurait indépendance politique, il faudra réciter le Hallel. Jusque-là, vous me suivez ? Parce que les gens n'ont pas étudié dans mon cours. On a le droit de se tromper. D'ailleurs, il y a eu des controverses autour de Hanouka, il y a eu des controverses autour de la sortie d'Égypte. Les controverses autour de la sortie d'Égypte sont racontées dans la Torah. Il y avait Datan, Aviram, Korach, ils n'étaient pas d'accord. Oui. Hein ? Ah, une indépendance politique ne signifie pas forcément un territoire. Par exemple, les enfants d'Israël, lorsqu'ils sortent d'Égypte, constitue une entité politique qui fait des guerres, des traités, qui a une économie, un roi, des impôts, tout le reste. Et ils n'ont pas de territoire. On a vu des choses pareilles, par exemple, dans l'Antiquité, il y avait les Goths. Non, les Goths. G-O-T-H. S. Visigoths et Ostrogoths. Hein? Bon, ils avaient des rois, ces gens-là. Il y avait les rois des Goths. Mais les Goths n'avaient pas de territoire. Ils avaient un roi, mais ils n'avaient pas de territoire. C'est-à-dire qu'ils étaient une entité politique qui existait, qui avait une vie politique, qui entretenait des relations diplomatiques, etc., sans avoir de territoire. D'accord ? Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a encore ? Quoi ? C'est une moue. C'est pas tout à fait exact. Pourquoi c'est pas tout à fait exact ?
Ils ont été chassés par les Huns, c'était transitoire.
Oui, bien sûr. Oui, mais enfin, disons, ils étaient chassés par les Huns, c'est vrai, et par les autres aussi. Mais, justement, ils ont traversé toute la Sibérie pour trouver un territoire. Quoi ? Si. Ça dépend à quelle époque. En tout cas, bon, il y avait des Germains à la frontière chinoise, les Usun, en passant. Tout ça, bon, il y a eu ce qu'on appelle la poussée unique, qui a fait, unique avec un H, n'est-ce pas ? Qui fait que toutes ces tribus, toutes ces peuplades ont été déplacées. Et tout en étant déplacées, elles étaient à la recherche d'un territoire, elles avaient tout le temps un pouvoir politique. Le fait est là. Donc, en fait, c'est pas du tout pas exact, c'est tout à fait exact. Bon, je reviens. Ils avaient des drôles de noms. Il y a les Alains, comment on peut s'appeler des Alains ? Bon, en tout cas, on pourrait faire des tas de jeux de mots, mais c'est pas le moment. Et donc. Donc il y a une takana donc, de dire le Hallel à chaque fois que l'on accède à la libération d'ordre politique. C'est ce qui s'est passé à Hanouka, c'est ce qui se passe à Yom HaAtzmaut. Pessah, bien sûr.
Pourquoi on fait un jour à Pessah ?
Parce qu'il suffit d'un jour pour fêter le fait de qu'on sorte.
Tous les jours, comme à Hanouka.
Bon, alors, c'est un sujet qu'il faudra discuter quand on étudiera pour Pessah. D'accord ? Ok, on ne peut pas tout faire à la fois. Bon, je reviens donc à la takana originelle qui est de dire le Hallel. Maintenant, oui. Maintenant, si c'est vrai ce que je vous dis là, alors il y a un petit problème. Vous savez que les jours de Hanouka font partie d'un texte qu'on appelle Megillat Ta'anit. Vous avez entendu parler de ce texte ? C'est quoi Megillat Ta'anit ? Non, pas du tout. Megillat Ta'anit est un tout petit livre qui a été écrit antérieurement à la Mishnah. C'est un livre ancien qui est cité par la Mishnah, qu'on appelle Megillat Ta'anit, qui est écrit en araméen, et dans lequel il y a une liste de 32 jours dans l'année où il est interdit de jeûner, de faire des oraisons funèbres, et également le jour avant et le jour après. D'accord ? Dans ces 32 jours se trouvent également les 8 jours de Hanouka. Le texte fondateur, c'est dans Megillat Ta'anit. du point de vue de la halakha. Maintenant, dans ce texte-là, donc, au cours de l'année, vous avez plein de jours comme ça, une flopée de jours, dans lesquels il est interdit de jeûner, il est interdit de faire des oraisons funèbres, et on fait la fête. La Gemara nous dit dans le traité de Rosh Hashanah que le Megillat Ta'anit a été aboli. Ces jours ont été supprimés. C'est la raison pour laquelle vous n'avez pas entendu parler de ce texte. Si, on l'a. Voilà, ouais, il existe. Megillat Ta'anit, il y a différentes éditions, des éditions scientifiques, etc. Il y a différentes versions, il y a des ajouts, etc. Ce livre existe. Bon. Et d'ailleurs, le passage dans la Gemara de Shabbat qui parle de Hanouka, c'est un extrait de ce livre. Mais la Gemara, dans le traité de Rosh Hashanah, nous dit que la Megillat Ta'anit a été abolie. C'est-à-dire que tous les jours où il était interdit de faire des jeûnes, maintenant on a le droit de jeûner, on a le droit de faire des oraisons funèbres et tout le reste. Maintenant, la Gemara dit, dans ce cas-là, pourquoi est-ce que Hanouka n'a pas été supprimé? Maintenant, et si on... Oui. Alors, pourquoi elle a été supprimée? Tout simplement parce que cette liste de jours, c'est pour l'essentiel des fêtes qu'on faisait pour les, en souvenir des victoires des Hashmonaïm. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit que c'était que des victoires, j'ai dit essentiellement. Est-ce que essentiellement signifie tout? C'est même le contraire. Donc la question, a priori, est futile. Mais tu n'as qu'à lire le livre. En tout cas, étant donné que ça commémore des événements qui se sont produits à l'époque où il y avait un État indépendant des enfants d'Israël, après la victoire des Hashmonaïm, alors il tombe sous le sens qu'à partir du moment où cet État a été détruit, il n'y a plus de sens à fêter toutes les fêtes des victoires des Hashmonaïm. C'est la raison pour laquelle le Megillat Ta'anit a été aboli. Dans ce cas-là, se pose la question, mais alors dans ce cas-là, pourquoi continuer à faire une fête d'indépendance qui n'a plus son sens, puisque l'État en question a été détruit? Je parle ici de la question, n'est-ce pas? J'explique la question de la Gemara. Et en fait, cette question de la Gemara explique la même question qui apparaît dans le traité de Shabbat. Dans le traité de Shabbat, la Gemara demande « Mai Hanouka ?» Pourquoi Hanouka ? Et on comprend, c'est-à-dire pourquoi Hanouka ? Et après on nous raconte l'histoire de la fiole, alors on a pensé que ça voulait dire que Hanouka était à cause de la fiole. C'est pas ça que pose la Gemara comme question. Elle demande pourquoi est-ce qu'on le fait, pourquoi est-ce qu'on continue à faire Hanouka alors qu'il y a eu la destruction du temple ? Oui. La même question se pose, très bien. Cette question est posée par Rabbi Yitzhak Abravanel dans son commentaire de la Haggadah. Pourquoi est-ce que nous faisons Pessah alors que nous sommes maintenant en exil en Espagne ? N'est-ce pas ? C'est la même question que pose Rabbi Yitzhak Abravanel. Il donne sa réponse là-bas, une très bonne réponse, mais ce n'est pas notre sujet maintenant. Mais la question pour Hanouka se pose aussi. Et la réponse, c'est qu'il y a eu la fiole d'huile. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'elle vient faire, cette fiole ? Elle vient expliquer que les Chachamim ont vu dans le miracle de la fiole un signe. Un signe qu'il y avait dans Hanouka une dimension supplémentaire à la dimension politique qui justifiait de continuer Hanouka même après la destruction du temple. Voilà. Quoi ? Ben, les autres non. Justement, la fiole. Ce qui fait que vous avez un motif qui revient tout le temps, un leitmotiv de Hanouka qu'on trouve un peu partout, la victoire de la lumière contre l'obscurité, n'est-ce pas? Bon, on peut dire que c'est pas un hasard, la victoire contre les Grecs, c'est la victoire de la lumière contre l'obscurité, n'est-ce pas? Jusque là vous me suivez? Vous avez même des midrashim qui vous expliquent que quand la Torah dans le livre de Bereshit dit le mot Chosher la première fois, Vechosher al peneteom, l'obscurité qui était sur l'abîme, ça prépare l'apparition de la Grèce dans l'histoire. Oui. Je ne sais pas encore. D'accord. Et vous avez compris jusqu'à présent? Donc on parle toujours comme ça, les lumières contre l'obscurité. Les obscurités, c'est les Grecs et nous, c'est la lumière. D'accord? Là, j'ai un petit problème. Vous connaissez un peu l'histoire des Grecs? Bon, qu'est-ce qu'ils ont donné au monde, les Grecs? Ils ont donné beaucoup de choses. La philosophie, la démocratie, la science, l'esthétique, l'esthétique, donc c'est énormément de choses. Je reprends. Hein? Le sport, les Jeux Olympiques, il y a énormément de choses qui nous viennent de la Grèce et qui sont des choses extrêmement positives. Alors, il faut être obscurantiste pour déclarer que la Grèce, c'est l'obscurité. Non, j'en suis à la question. Vous avez compris ma question? C'est plus important de comprendre la question que de donner une réponse. Parce qu'il vaut mieux rester avec une bonne question qu'une mauvaise réponse. Donc, c'est vrai que nous avons plein de réponses que nous voulons tirer de nos fagots, de derrière les fagots, mais ce n'est pas grave. On en est pour l'instant à s'apesantir énormément sur la question. Oui? Vous avez compris le problème? C'est-à-dire, si nous parlons, il faut être bien conscient que les Chachamim, quand ils parlaient de la Grèce, savaient que la Grèce, c'est la lumière. C'est-à-dire, sans les Grecs, le monde aurait été plongé dans une très profonde obscurité. Et ce qui ne fait que renforcer notre problème. Pourquoi est-ce que les Chachamim ont déclaré que la Grèce, c'était l'obscurité? Alors vous dites comme ça, que les Chachamim, ils n'avaient rien contre les Grecs de la Grèce classique, Platon, Aristote et Socrate, et Périclès et tous les copains, tandis que notre opposition, c'était en fait contre les Séleucides, les Hellénisants qui étaient une forme dégradée de la Grèce. Trop facile. Je vais vous dire pourquoi c'est trop facile. Parce qu'on peut se demander, est-ce que les persécutions d'Antiochus contre nous, c'était une gaffe. Dans ce cas-là, ça aurait été une gaffe. C'est-à-dire, Antiochus n'aurait pas été fidèle à la tradition grecque. Il s'est complètement planté quand il a fait des persécutions contre les Juifs. En fait, il aurait dû continuer la bonne vieille tradition grecque de tolérance. Et puis, tout aurait été arrangé. N'est-ce pas? C'est comme ça que vous voyez ça? Oh, vous avez beaucoup d'humilité. En fait, le problème de la Grèce, c'est que c'est de la lumière. Et que Israël, c'est de la lumière. Il y a une rivalité entre deux lumières. Une lumière obscurcit l'autre. C'est pour ça que pour Israël, la lumière des Grecs est une obscurité. La Guémara nous dit, ils ont obscurci les yeux d'Israël. C'est pas que c'est l'obscurité en soi. Il y a ici, justement parce qu'il y a une lumière, cette lumière s'oppose à une autre lumière. Quand on parle de lumière, on parle ici de sagesse. Or, il y a deux formes de sagesse et elles sont rivales l'une de l'autre. C'est ça qu'ils vont. Oui. Hein? Elles peuvent se compléter éventuellement, il faut voir. Mais le problème, c'est de savoir qui va prendre la place de l'autre. Et chacun doit être à sa place. Par exemple, une des premières rencontres que nous avons entre des Juifs et des Grecs est racontée par un élève d'Aristote du nom de Cléarque. Cléarque, qui était un élève d'Aristote, qui était le maître d'Alexandre le Grand, qui a fait la conquête du Proche-Orient et qui a hellénisé le monde entier. Cléarque raconte qu'Aristote a rencontré un juif qui s'appelait Simon. Vous avez entendu parler d'un juif du nom de Simon au temps d'Aristote? C'est Shimon HaTzadik, n'est-ce pas? La Mishnah nous parle de Shimon HaTzadik, qui a rencontré Alexandre le Grand d'ailleurs, qui était d'ailleurs grand prêtre. Et Cléarque raconte qu'Aristote avait un grand plaisir à discuter avec ce juif, qui était un homme de grande valeur, qui avait beaucoup de connaissances et une grande sagesse, à tel point qu'on aurait pu croire qu'il était un des Grecs. C'est-à-dire qu'on peut dire que pour les Grecs, c'était éblouissant, effectivement, de rencontrer les Juifs. Nous avons enfin des philosophes chez les barbares. Chez les barbares. Les barbares, c'est nous. N'est-ce pas? Et donc, ils se sont dit, voilà, il y a encore des Grecs ailleurs. C'est-à-dire que pour les Grecs, ils ne voient le monde qu'à travers les lunettes grecques. C'est ça qui va mesurer chaque chose. Oui? C'était postérieur à quoi? Bon, d'accord, mais bon, on ne sait pas très bien quand est-ce que ça a commencé, la Grèce. Mais c'est pas ça le problème. La rencontre avec Israël s'est faite très, très tard. Ils n'avaient pas entendu parler. Le premier grec qui parle des juifs, c'était l'historien Hérodote. Hérodote dit que les juifs sont des Syriens, sont des Syriens de la Non, ce sont, il dit, ce sont des, pas des Syriens. Il dit, ce sont des Égyptiens du sud de la Syrie. C'est ça qu'ils aient dire des Égyptiens. Et qu'ils ont la circoncision, qu'ils se circoncisent et qu'ils ont appris ça chez les Égyptiens. Voilà, c'est à peu près ça qu'il sait dire. Bon, mais enfin, disons que très tard, ils ont rencontré, mais Aristote a rencontré donc un juif. Il en était, paf. Mais qu'est-ce qu'il a remarqué sur ce juif? Il a remarqué la sagesse. Ça correspondait, disons, ça s'est donné un écho à ce que lui connaissait. Et puis, plus tard, pas tellement plus tard, mais du temps du roi Ptolémée II, vous savez que tous les rois hellénistiques d'Égypte s'appelaient Ptolémée. Et ils avaient souvent des reines du nom de Cléopâtre. D'accord. Mon premier ouvre les portes, mon deuxième se boit, et le troisième, mon troisième fait paître les moutons, et César aime mon tout. D'accord. Cléopâtre. Donc, il y avait donc un roi parlant le grec en Égypte, à Alexandrie, qui s'appelait Ptolémée de Philadelphie, qui a tellement aimé les Juifs qu'il a demandé à ce que la Torah soit traduite en grec. Pour ce faire, il a pris 72 sages d'Israël pour qu'ils traduisent la Torah. Ça s'appelle la traduction des Septante. Oui. Oui. Et donc, il a demandé. Il y a des raisons à ça. Bon, donc il a demandé à traduire la Torah en grec. Le Midrash nous raconte comment ça s'est. Il y a différentes sources autour de ça. Le Midrash raconte qu'il les a mis chacun dans une autre pièce pour que chacun traduise à sa manière. Il y a eu un miracle, dit le Midrash. Ils ont tous traduit de la même manière. Mais vous savez pourquoi 70 rabbins ont traduit de la même manière? Parce qu'ils étaient dans des pièces différentes. Ce qui prouve que vous manquez gravement de sens de l'humour. Mais en tout cas, c'est pas grave. Qu'est-ce que ça voulait dire traduire la Torah en grec? Alors, c'est intéressant parce que dans le Midrash, on nous dit que le jour où la Torah a été traduite en grec, il y a eu 3 jours d'obscurité dans le monde. C'est bizarre, ça. Ça veut dire que les Chachamim n'étaient pas d'accord. Ils n'ont pas apprécié cette traduction. Pourtant, il faut bien comprendre une chose. Pour un grec, traduire la Torah en grec, ça veut dire que c'est quelque chose de tellement admirable que ça mérite d'être traduit dans la langue de la culture générale et d'être mis sur une étagère d'honneur à côté des œuvres de Platon et d'Aristote. C'est-à-dire, c'est un truc tellement extraordinaire, votre Torah. Nous vous remercions, vous autres, les Juifs, d'avoir eu cette gentillesse de préserver cette œuvre admirable pendant si longtemps, pour que ça ne soit pas perdu. Nous allons enfin donner l'accès à la Torah du monde général. À partir de ce moment-là, vous autres les Juifs, vous pouvez disparaître de l'histoire, vous ne nous intéressez plus. Vous avez fait votre travail, très gentil, c'est très bien, vous pouvez disparaître. Maintenant, remarquez que dans la prière de Hanouka, quand nous disons le Alanissim, on dit que chez Amda, Malchut Yavan Arecha Alamcha Israël, lorsque l'empire scélérat des Grecs s'est levé contre ton peuple Israël, Leashkiham, pour leur faire oublier. Alors c'est quoi la suite? Leashkiham? Hein? Oui? Vous l'avez mis en alors, d'accord. Et vous avez en fait 2 versions. Il y a une version qui dit Leashkiham Torah Techa pour leur faire oublier ta Torah. Et il y a une autre version qui n'a pas toujours été comprise, mais qui est en fait la bonne, Leashkiham Mitorah Techa, les faire oublier de ta Torah. C'est pas du petit nègre. Ça veut dire que ils ont voulu prendre la Torah et effacer Israël de la Torah. C'est-à-dire la Torah devient une sagesse. Donc, celui qui en a été le réceptacle n'est plus important à partir du moment où le contenu a été transmis. C'est comme si vous avez, par exemple, des piyoutim, on les met sur cassettothèque, Maintenant, c'est gardé pour l'éternité, donc les chanteurs peuvent disparaître. Oui ? C'est l'origine du christianisme. C'est-à-dire, en fait, le christianisme est un prolongement de cette approche-là. Et donc, il y a eu, à partir de ce moment-là, quelque chose de très grave. C'est-à-dire que la Torah a été considérée comme une sagesse. Or, la Torah n'est pas une sagesse. C'est quoi la Torah ? C'est la parole de Dieu. Il y a une différence entre une parole et une sagesse. Une sagesse, c'est quelque chose auquel je dois accéder. Bon, alors j'en reviens donc à notre sujet. La Torah est une parole. Quand il y a une sagesse, elle est éternelle. Par exemple, la loi de la gravitation universelle, ça fait partie de la sagesse du monde. À cause de la loi de la gravitation, vous savez ce qui se passe avec les pommes ? Elles tombent. Où est-ce qu'elles tombent, au fait ? Pas loin du pommier, n'est-ce pas ? C'est une règle immuable, c'est la loi. Comme disait d'ailleurs un chanteur français, la loi de la pesanteur est dure, mais c'est la loi. Et en fait, nous avons des témoignages historiques comme quoi les pommes tombaient avant que Newton n'ait découvert cette loi. Ce qui prouve qu'il n'y a aucun rapport entre la loi de la gravitation et Isaac Newton. N'est-ce pas ? Il n'a fait que la découvrir. S'il ne l'avait pas découvert, eh bien, lui aurait été en dehors de la sagesse, mais la sagesse serait restée. Tandis que la Torah, c'est exactement le contraire. La Torah étant une parole, la parole implique l'interlocuteur, celui à qui cette parole est donnée. Donc, s'il n'y a pas quelqu'un pour la recevoir, elle n'a pas de sens. Or, pour comprendre la Torah, il faut, comme c'est une parole, il faut savoir à qui cette parole est adressée. Elle est adressée à Israël, elle n'est pas adressée aux nations. Maintenant, les Grecs n'ont pas compris ça. Ils ont compris que la Torah n'était qu'une sagesse. Maintenant, pourquoi est-ce qu'ils ont compris ça ? Parce que c'était à une époque où Dieu a cessé de parler. La prophétie a arrêté. Tant qu'il y avait des prophètes, personne n'aurait pu penser comme ont pensé les Grecs. Il était évident qu'il s'agit d'une révélation de parole du Créateur à Israël. Ce n'est qu'à partir du moment où la névoie, la prophétie arrête, que on commence à se demander est-ce que la Torah ne serait pas simplement une sagesse. Oui. Oui. Non. La sagesse juive, disons, est l'enveloppe de la parole, qui est la Torah. Or, c'est ça le problème, on peut se tromper. On pourrait dire, la Torah, c'est une expérience intellectuelle absolument extraordinaire. C'est merveilleux. C'est très interpellant. Hein. Vous connaissez ce genre de... Moi, ça m'interpelle, hein, la Torah. Voilà, des trucs de ce genre. Et alors, on fera donc des rencontres intellectuelles autour des textes talmudiques, zohariques et tout le reste, en oubliant une seule chose, c'est que c'est la parole du Créateur. Et en fait, la question qui se pose est très grave. Est-ce que les Grecs ont raison ou tort ? Peut-être que les Grecs ont raison à partir du moment où il n'y a plus de prophète. Oui ?
Il y a un fait historique qui prouve que la prophétie existait.
Oui, bien sûr, mais une fois qu'elle a cessé, eh bien peut-être que ça cesse d'être une parole.
Comment tu pourrais ? C'est une parole, on sait que c'est une parole divine.
Oui, mais cette parole a cessé de parler. D'accord ? Il y a eu un temps où où ont cessé les prophètes. Là, il y a un midrash qui s'appelle le Derech Eretz Zuta, Oseder Olam Zuta, qui dit que les derniers prophètes sont morts le jour où Alexandre est arrivé en Eretz Israël. Bon, c'est une manière de dire qu'en fait, il y a une opposition entre la Torah et les prophètes, entre les prophètes et la philosophie. Et donc, peut-être que c'était vrai à un moment, mais c'est caduque. C'est-à-dire, c'est vrai qu'à un moment, la Torah a été une révélation, mais maintenant que cette révélation a cessé, peut-être que ce n'est que de la philosophie. Donc peut-être que les Grecs ont raison d'exiger de notre part de nous fondre dans le cadre de la culture générale. N'est-ce pas ? Qu'est-ce qui prouve qu'ils ont tort ? La victoire des Hashmonaïm ne prouve rien. Parce que la victoire des Hashmonaïm, finalement, c'était une victoire militaire. Mais peut-être qu'après... Comment ? Hein ? Exactement. Le miracle de la fiole était un clin d'œil. C'est-à-dire, c'est un temps où la Shérina n'est pas présente. Mais malgré tout, il y a quand même une présence particulière de la Shérina en Israël qui justifie, disons, dans l'essence même, la victoire des Hashmonaïm. D'accord ? Oui. Donc la fiole d'huile explique ce qui s'est passé dans la victoire. S'il n'y avait pas eu de victoire avec que le miracle de la fiole, ça aurait été on se fiche de notre fiole. Oui. C'est, des miracles, il y en avait de temps en temps dans le temple. Mais le fait que ce miracle soit le couronnement de la victoire, ça prouve que la victoire avait un sens. D'accord ? Et donc nous avons eu raison d'avoir cette victoire. Où est-ce que j'en étais ? Oui, non, la fiole d'huile. Maintenant, vous comprenez pourquoi, bien que le temple ait été détruit, la rivalité entre la prophétie, la présence de la Shérina en Israël, et le message du monde de la culture générale, cette rivalité continue jusqu'à nos jours. Maintenant, là, je voudrais vous poser une petite question. Pourquoi est-ce que la fête de Hanouka, donc qui commémore cette victoire, a été fixée pour le 25 qui se lève ? Est-ce que le Rav Partouche vous a expliqué pourquoi ? Parce que la guerre a été finie le 25. C'est faux. La conquête de Jérusalem a été réalisée pendant les premiers jours du mois de Kislev. Je ne
dis pas que se sont arrêtés le
25. C'est des drachotes très tardives. Mais si on voit dans les livres historiques, nous voyons qu'en fait, la conquête de Jérusalem a été réalisée dans les premières semaines du mois de Kislev. Alors pourquoi avoir fixé le 25 qui se lève comme date ? Le début de la révolte ? Non, pas du tout. Pas du tout. Le miracle de la fiole s'est produit effectivement le 25 qui se lève. Mais il s'est produit où ? Dans le temple. Et pourquoi est-ce qu'ils avaient besoin justement de ce miracle ? Parce que c'était la date qu'ils avaient fixée pour l'inauguration. Le mot Hanouka signifie inauguration. C'est-à-dire qu'en fait, la fiole, c'est à cause de Hanouka et pas Hanouka à cause de la fiole. Donc, à nouveau, on revient à la question. Pourquoi est-ce que les Hashmonaïm ont fixé le 25 qui se lève comme date de l'inauguration ? Oui ? On ne va pas fixer une date à cause d'un symbole. Il faut qu'il y ait une raison historique. Bah, vous allez me dire, parce que c'est là... Bon, ça a pris du temps à déblayer, d'accord ? Il y avait plein d'impuretés. Ils ne sont pas reconstruits. Le temple était entier. Il était simplement transformé en temple païen. Donc ils ont dû reconstruire l'autel. Ça a pris du temps. Et quand l'autel était prêt, c'était le 24 qui se lève. Et donc, à partir du 25, ils ont fait l'inauguration. D'accord. Alors on peut dire qu'effectivement, ça prend du temps pour déblayer, pour amener des pierres, etc. Alors ça prend du temps. Mais... À nouveau, on se pose la question, est-ce qu'ils n'auraient pas pu faire un peu plus vite ou un peu plus lentement ? Je ne sais pas. Pourquoi le 25 qui se lève ? Eh bien, c'est tout simple. C'est écrit en toutes lettres. Il faut simplement lire. C'est écrit en toutes lettres dans le livre des Maccabées. Que le 25 qui se lève, c'était 3 ans, jour pour jour, après que Antiochus ait souillé le temple avec une idole de Zeus et qu'il ait présenté un cochon sur l'autel. Il avait fait ça le 25 Kislev. Comment ? 3 ans. Ben, ça a pris du temps de faire la guerre, etc. Ben, pendant ces 3 ans-là, le temple était souillé. C'est-à-dire que, en fait, le roi Antiochus a voulu inaugurer un temple païen à l'emplacement du Beth Amikdash. D'accord ? Il a mis une statue de Zeus olympien dans le Kodesh HaKodashim et il a présenté un cochon sur l'autel. En fait, donc, c'était sa fête à lui d'inauguration. C'était sa Hanouka à lui. Et en réaction à cette fête de Hanouka d'Antiochus, il y a la fête de Hanouka des Hashmonaïm. Vous avez compris maintenant ? C'est en réaction l'un à l'autre. C'est comme d'ailleurs comme pour Pourim. Haman voulait détruire le peuple le jour même où on a eu la victoire. Oui ? Eh bien parce que le bon Dieu, il a fait quelque chose d'assez incroyable, c'est qu'il nous a mis sur la même planète que les Goïm. Moi, j'aurais pas fait comme ça. Moi, j'aurais mis les Juifs sur une planète, les Goïm sur une autre. Mais pour des raisons inexplicables, Dieu nous a mis sur la même planète. C'est probablement, je suppose, qu'il y a un projet commun. Oui, on fait toujours comme ça. On fait toujours par rapport aux autres. Par exemple, qui c'est qui a fixé la date de la sortie d'Égypte ? Le Pharaon. C'est lui qui a dit « Vous sortez aujourd'hui ». Qui c'est qui a décidé de la fête de Pourim ? C'est Haman. Qui c'est qui a décidé de la date de Yom HaAtzmaout ? Les Anglais. Non, on ne le recueille pas. On lui fait la nique. On lui dit, voilà, si tu vois, tu as voulu... eh bien, voilà. Le jour même où tu as voulu souiller notre temple, eh bien, nous allons faire notre temple. Oui ? Comment ? Ah, ça, c'est la bonne question. Pourquoi est-ce qu'Antiochus a souillé le temple le 25 qui se lève ? Par rapport à nous. Mais qu'est-ce qu'il y avait par rapport à nous ? Il n'y avait pas encore la fête de Hanouka. Hein ? Mais pourquoi le 25 qui se lève ? C'est ça ma question. Pourquoi est-ce qu'Antiochus, quand il a voulu lutter contre les Juifs, a décidé de faire un temple païen justement le 25 qui se lève ? Il doit y avoir une raison. Une raison très simple, c'est que c'est ce jour-là que c'était la fête de Hanouka. Si, de quel Hanouka je parle ? L'inauguration du deuxième temple. Vous avez qu'à lire dans le livre de Haggai, au chapitre Bet, et là-bas il est dit en toutes lettres que le 24 qui se lève, l'autel a été fini, et donc à partir du lendemain, on a fait des sacrifices. C'est-à-dire que le 25 qui se lève était depuis très longtemps, bien avant Antiochus. Le Mishkan, c'est dans le Midrash. Je parle ici de choses qui expressent dans le texte. Le 25 qui se lève était le jour où les Juifs, probablement, fêtaient chaque année l'inauguration de leur temple. Et donc, en fait, la Hanouka d'Antiochus, c'était en réaction à la Hanouka des Juifs de l'époque. Comment ? Exactement. Donc en fait, Antiochus réagit à nous et nous réagissons à Antiochus. Ça fait donc 3 Hanoukas déjà. Oui ? Oui. Oui. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Parce qu'elle est liée à la nature. La nature, c'est ce qu'il y a de fondamental dans le monde. Oui. Oui. Le premier, ça s'est fait le 8 Tishri. Oui, mais on ne fêtait pas le 8 Tishri à l'époque du deuxième temple. Le premier temple avait été détruit. Donc, s'il a été question de faire une fête pour la construction du premier temple, elle n'avait plus de sens après la destruction du premier temple. Donc, les Juifs fêtaient l'inauguration de leur temple, c'est-à-dire du deuxième, le 25 qui se lève. Oui. Alors la question reste, mais pourquoi ceux qui ont fondé le deuxième temple ont décidé de faire l'inauguration le 25 qui se lève. Hein? La question est claire, non? Très bien. Vous avez compris ma question? Toi avec la kippa. Tu as compris la question? Oui. Comment ça succède, toi, je parlais? Bizarre, ouais. Bon. Donc la question se pose, pourquoi le 25 qui se lève? Eh bien, tout simplement, parce que le prophète Zécharia, quand il voit la construction du deuxième temple, il voit le retour de la Shekhina en Israël. Et cette Shekhina lui apparaît comme une lumière du sein de l'obscurité. Et donc, les prophètes ont décidé de fonder le temple le jour de la fête des Lumières. Vous avez compris? C'était parce que c'était la fête des Lumières. De quelle fête je parle? La fête des Lumières, ben c'est très simple. Vous savez qu'il y a dans la Torah un commandement qui est d'amener les bikurim, les prémices, au temple. Les prémices, c'est quoi? Les premiers fruits. Quels fruits? Hein? Les sept espèces qui grandissent en Eretz Israël, n'est-ce pas? C'est-à-dire, si c'est un pommier ou un poirier, il n'y a rien à voir. Mais si c'est, par exemple, de la vigne, alors on amène les premiers raisins. Des figuiers, on amène les premières figues. Jusqu'à quand est-ce qu'on peut amener les bikurim? Jusqu'à Soukhot. Jusqu'à Soukhot, c'est au cours de l'été, vous avez des figues, vous avez des raisins, vous avez des grenades, vous avez des dattes. Toutes ces choses-là apparaissent à ce moment-là. Vous avez des... Et puis, il y a un fruit qui n'apparaît sur les arbres qu'après Soukhot. C'est quoi? L'olive. Les olives ne poussent qu'après Soukhot. Qu'est-ce qu'on fait avec des olives dans l'Antiquité? De l'huile. Et à quoi elle sert l'huile? À éclairer et à frire. N'est-ce pas? Donc, si vous faites une fête des Lumières, attendez, alors maintenant, la Mishnah nous dit que pour les olives, on peut amener jusqu'à Hanouka. Maintenant, prenez une société agricole de l'Antiquité qui a fini d'engranger la récolte. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait la fête de l'engrangement. C'est la fête de Soukhot, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'elle s'appelle Chag HaAsif, la fête de l'engrangement. Quand on a fini la récolte des olives, qu'est-ce qu'on fait dans une société agricole? On fait une fête. De combien de jours? 8 jours, comme Soukhot. Et quel sera le thème central de la fête? Ben, la lumière et des beignets. N'est-ce pas? Et comme ça se passe en plein hiver, qu'est-ce qu'on fait? On reste à la maison. Qu'est-ce qu'on fait à la maison quand on est coincé? Ben on joue avec la toupie, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'il y avait une fête agricole dans l'Antiquité qui était une fête des Lumières. Quand les prophètes de l'époque du Deuxième Temple ont vu le retour de la Shekhina et qu'ils ont compris qu'elle ressemblait à une lumière dans l'obscurité, alors ils ont dit, nous allons faire donc l'inauguration pour cette fête des Lumières, le 25 qui se lève. N'est-ce pas? Oui. Quoi? Quand quoi? Quand est-ce qu'elle a commencé? Ah, très bonne question. Dis-moi, tu as lu mon texte là-dessus? Probablement, hein? Oui, je pense. En fait, c'est tu triches. Hein? C'est pour les autres, c'est très sympa. Mais je sais me débrouiller tout seul. Bon. Quel serait le premier homme à avoir fêté la lumière le 25 qui se lève? Hein? Le premier homme, n'est-ce pas? Donc Adam Arishon. Tu connais le texte dans la Gemara qui parle de ça? Il y a un texte dans la Gemara qui nous dit que le premier homme a péché à Rosh Hashanah, et puis il est éjecté du Gan Eden, et il voit que les jours se raccourcissent. C'est-à-dire chaque jour, la nuit prend de plus en plus d'ampleur. Il se dit, ben, c'est bien embêtant, c'est probablement à cause de mon péché. Il ne connaissait pas la rotation de la Terre et tout ça, enfin l'inclinaison de l'axe. Voilà. Il disait, c'est à cause de moi que le monde est plongé dans l'obscurité, et c'est son retour au néant, au tohu va-bohu. Très embêté, il fait un jeûne. Il jeûne, il pleure pendant 8 jours. Et puis après, il arrive au solstice d'hiver. C'est quoi le solstice d'hiver ? Le plus court de l'année, c'est quel jour ? Le 21 décembre. Donc il arrive au 21 décembre. Il voit que le jour commence à s'allonger. Ça lui prend combien de temps pour voir que le jour s'allonge ? On ne voit pas ça tout de suite. Ça prend 2-3 jours. Donc il arrive au 24 décembre. Et il se dit, dit la Guémara, « Ah, c'est donc l'ordre de la nature. Minago shelolam. » Tout content, il fait une fête de 8 jours, du 25 décembre au 1er janvier, pour fêter ça. Pour fêter le retour de la lumière. D'accord ? Cette fête est devenue après, chez les Romains, les Saturnales. Mais cette fête était connue dans l'Antiquité, chez les Grecs aussi, on faisait ça. Et donc il y a eu, et la Guémara nous dit, lui, il avait une intention pure, mais les goïms en ont fait de l'arbre d'Azara. Maintenant, dans le calendrier juif, ça tombe quand, le 25 décembre ? En moyenne, dans le 25 qui se lève. Il est évident que lors de la première année de l'histoire, c'était la même chose. Donc c'était le premier à avoir fait la fête de Hanouka ce jour-là, c'était donc Adam Arishon. Noël, oui, après, était repris par les chrétiens. Les chrétiens ont employé une fête antérieure qu'ils ont utilisée justement pour parler de leur fondateur, etc. D'accord ? Oui, bien sûr qu'il y a un lien. Il y a un lien. Maintenant, ça vous explique d'ailleurs pourquoi est-ce qu'Antiochus a pensé au 25 qui se lève aussi pour cette raison-là. C'est probablement sa fête à lui. Et donc, il y a une apparition de la lumière à partir du 25 qui se lève. Effectivement, on est plongé dans l'obscurité. Et c'est à partir de ce moment-là que la lumière augmente. Mais dans ce cas-là, celui qui a décidé qu'il y aurait plus de lumière à partir de ce moment-là, c'est le créateur du monde lui-même. N'est-ce pas ? Or ça, il l'a écrit dans la Torah. Qui se lève, c'est quel mois dans l'année ? Le 9e, si on compte à partir de Nissan. Et si je compte à partir de Tishri ? Le 3e. N'est-ce pas ? Vous avez vu que le mot « or », lumière, apparaît dans le 3e verset de la Torah. Comment ? C'est le 25e mot, n'est-ce pas ? Si vous prenez depuis Bereshit, Bara, Elohim, Et, Hashamayim, Ve'et, Haaretz, Ve'aretz, Aita, Tohu, Favu, Ve'chosher, Al, Pene, Teom, Beruach, Elohim, Merachefet, Al, Pene, Hamayim, Ve'ayomer, Elohim, Yehi, Or, 25. Donc le 25e mot. Donc on voit bien que les fêtes d'Israël ont une origine dans l'ordre du monde, avant l'événement historique qui justifie la fête. C'est-à-dire, on ne fixe une fête qui engage tout Israël que quand il y a un événement qui concerne tout Israël. Mais la date elle-même était prédestinée. Pourquoi cette date ? Pourquoi le 25 ? Bon, il y a des raisons kabbalistiques à ça. Mais disons que, de manière générale, la puissance de la vie se trouve au début du mois, au milieu du mois, pas en fin de mois. De même, pour les mitzvot, on fait en général les mitzvot au début de la journée, pas en fin de journée. Oui, c'est la fin, justement. Il y a ici quelque chose d'assez surprenant. D'accord ? C'est-à-dire, c'est la capacité dans Hanouka de voir de la lumière dans l'endroit le plus bas. D'accord ? C'est pour ça, d'ailleurs, que c'est une fête qui est, on peut dire, une sorte de cadeau quand on part en exil. On part en exil, on nous donne un peu de lumière avant de partir. D'accord ? C'est comme ça que ça s'est passé. Ça s'est pas... Donc pendant tout le temps de l'exil, la dimension politique de Hanouka a disparu, on a retrouvé la dimension de la lumière qu'il y avait auparavant, et ce, jusqu'au jour de Hanouka de l'année 1917. Qu'est-ce qui s'est passé lors de Hanouka en 1917 ? Il y a eu quoi ? En octobre, oui. Alors, tu dis, il y a eu donc la déclaration Balfour. C'est faux. La déclaration Balfour a eu lieu à peu près un mois avant. Mais, ce qui s'est passé, c'est que la veille de Hanouka, le 24 qui se lève de l'année 1917, le général britannique Allenby a conquis Jérusalem. Et il y a d'ailleurs une stèle qui commémore cet événement derrière la Tachana Merkazit à Jérusalem, à Romema. D'ailleurs, vous avez là-bas une sorte d'énorme monument sur lequel sont représentés les croisés. Oui, c'est-à-dire qu'Allenby se voyait comme la vengeance des croisés. En tout cas, il arrive à Jérusalem, il reçoit les clés à côté de la Tachana Merkazit, les clés de Jérusalem, le 24 Kislev, il entre dans Jérusalem et passe sa première nuit là-bas, le 25 Kislev. Or, c'était la première application politique de la déclaration Balfour. C'est-à-dire c'était pour la première fois depuis l'exil que nous rentrons à nouveau dans l'histoire politique. Quoi ? Ça s'est fait pour des Juifs. C'est-à-dire la justification de la conquête de Jérusalem, c'était l'application de la déclaration Balfour. D'accord ? Et donc, à partir de ce moment-là, Hanouka a retrouvé sa dimension politique. Jusque-là, vous me suivez ? Très bien. Maintenant, une petite remarque qu'il faut faire, c'est dans la prière de Alanissim, on dit à la fin du texte, Ulecha asita shem kadosh, le gadol de kadosh bolamecha. Tu t'es fait une grande renommée, une grande et sainte renommée dans ton monde. Uleamcha Israël asita teshua gedola, keayomaze, et pour ton peuple Israël, tu as fait une grande délivrance jusqu'à ce jour. Donc, nous mentionnons là-bas deux effets de Hanouka. Le premier, c'est que le nom de Dieu a été sanctifié dans le monde, et le deuxième, c'est qu'Israël a été sauvé. C'est quoi cette sanctification du nom de Dieu dans le monde qui s'est produite à ce moment-là? C'était la première fois qu'un petit peuple, dans un petit village, avait fait ébranler un empire. N'est-ce pas? C'est-à-dire c'était le début de la chute de l'empire séleucide. À partir de ce moment-là, les goyims ont commencé à s'intéresser au judaïsme. C'est-à-dire jusqu'à présent, l'histoire, le monothéisme, la foi des juifs en un seul Dieu, le refus du paganisme, c'était considéré comme une curiosité qu'on pouvait visiter dans l'Empire séleucide. Bon, ben, c'est un touriste passant par là, on aurait dit, tiens, c'est bizarre, ils n'ont pas de Dieu, ces gens-là. D'accord? Et puis il aurait continué sa route. À partir du moment où il y a eu la victoire des Hashmonaïm à cause du problème du monothéisme, c'est à partir de ce moment-là que le judaïsme a commencé à être étudié et à exercer une fascination très importante sur le monde. Ce qui vous explique pourquoi, dans l'Empire romain, il y avait à un moment une très grande fascination pour le judaïsme, à tel point que le judaïsme a failli devenir la religion officielle de Rome. Finalement, ça ne s'est pas passé comme ça, c'est les chrétiens qui ont récolté les fruits de ça. Mais ça veut dire qu'en fait, sans la victoire des Hashmonaïm, il n'y aurait pas eu dans le monde ni l'islam, ni le christianisme. On peut donc dire que un des effets secondaires de Hanouka, c'est ça. D'accord ? Alors je ne sais pas si Matityahu aurait été tellement content de ça, mais malgré tout, on peut dire que quelque chose dans l'histoire a commencé à prendre la place, c'est-à-dire l'influence énorme du judaïsme sur la civilisation universelle, ça commence à Hanouka. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement un événement local, nous avons purifié notre temple, nous nous sommes libérés des Grecs. C'est quelque chose de beaucoup plus fort. C'est en fait le début de la victoire finale d'Israël contre la Avodah Zara. Voilà, c'était donc quelques pensées autour de Hanouka, puisqu'on m'a demandé de vous dire quelques mots sur la fête. Voilà, Chag Sameach.